Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
RTVFM.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs sur le 102.2. Bien sûr, on est en direct depuis le studio de Carpentras-Serre et on est entouré de nombreux invités. Et Alexandre, salut Alexandre.
Salut Lionel, bonsoir à tous.
Hein, et bonsoir Valérie.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Bon, vous allez bien tous les deux?
Ça va nickel.
Vous avez pris les vestes, les gilets parce qu'il commence à faire froid.
Ah oui, il commence à faire froid.
Très froid. Ah oui, mais c'est vrai que tu joues plus au rugby encore.
Et si, j'ai repris, ça y est.
Eh oui, t'as pas vu, il a plus son attelle.
Ah si, j'ai plus l'attelle, non, j'ai repris les entraînements.
Les entraînements?
Les matchs, c'est à partir de fin janvier.
D'accord. Donc jusqu'à fin janvier, ils sont sûrs de gagner en fait.
Non, oh, quand même. Ah, on va gagner avec
allez,
quand même.
Je vais vous présenter nos invités. Alors ce soir, en première partie, on va parler d'arts martiaux. Et avec un professeur qu'on a l'habitude de recevoir dans l'émission, qui est très très sympathique, c'est Michael Mass. C'est le professeur du Ventoux Budokan, un jeune club qui a vu sa naissance, je crois, il y a l'an dernier, mais on en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc, Michael, tu es professeur de Yoseikan Budo, d'Aïkido, de Karaté et de Kobudo. Bonsoir, Michael.
Bonsoir à tous. Oui, tout à fait. Donc, on revient avec plaisir cette saison pour parler un petit peu d'association et toujours avec cet accueil aussi chaleureux.
Bah écoute, en tout cas, c'est vraiment l'objectif qu'on a. Bon, même si Valérie est moins sympathique, mais c'est pas grave. Non, je rigole, Valérie. Ah, oh, fallait bien que je sorte quand même une vanne.
Bah oui.
Bah oui.
J'étais surprise que tu l'aies pas encore fait. Hein.
Et il se plaît tellement dans l'émission qu'il s'est dit, je vais ramener du monde. Oh. Et il a ramené la présidente. Dis-moi, c'est vrai que l'an dernier, elle n'était pas venue, bon, parce qu'elle ne pouvait pas venir, mais elle est là. C'est Audrey Arliot qui est présidente du club. Bonsoir à Audrey.
Bonsoir à tous. Alors oui, il fait froid et on est tous en doggy en kimono avec nos ceintures, comme des vrais warriors. Bonsoir à tous.
Ça se voit. Ensuite, deuxième professeur, c'est Véronique Couzereau, professeur donc de karaté, premier dan.
Oui.
Tu es ceinture noire, premier dan.
Exactement, bonsoir à tous et je suis très contente d'être ici.
Mais merci en tout cas
de nous recevoir.
Et bien sûr, tu es venu avec des élèves. Hein, donc, tout d'abord, il y a Priscilla Briançon qui est élève de Yoseikan Budo et ça fait 2 ans que tu pratiques.
Oui, c'est ça, bonjour déjà. Oui,
bonjour Audrey. Priscilla, il y a tellement de monde, toi, je vous dis pas la galère ce soir pour moi. Non, mais. Non mais ça va être la galère ce soir.
C'est compliqué.
C'était pour te mettre à l'épreuve Lionel, pour voir si t'avais une bonne mémoire.
Et après tu me donnes la ceinture noire.
On verra.
À la rigueur Lionel, t'aurais dû laisser Michael présenter voilà.
Ouais mais je suis parti. Mais il va présenter le dernier invité qui est arrivé qui était un peu en retard. Mais c'est pas grave, il est tout excusé. Mais avant de présenter donc par Michael le dernier invité, il y a Clara Blanc qui est également élève de Yoseikan Budo. Et c'est ta première année, c'est ça? Première année.
Oui.
Bon, ben justement, on pourra revenir là-dessus parce que deux élèves de Yoseikan Budo, c'est que le Yoseikan Budo a l'air d'attirer surtout des jeunes filles, en tout cas, parce que deux jeunes filles. Et Michael, il y a un troisième invité qui est parmi nous. Tu peux nous le présenter parce que j'ai pas son nom.
Alors c'est David Gamet qui a commencé les arts martiaux cette saison. Qui a assez vite évolué jusqu'à un rôle assez important, on en reparlera un petit peu plus tard, qui a été propulsé un petit peu malgré lui dans le milieu des arts martiaux à travers moi et à travers des événements. Et du coup, voilà, donc il me tenait à cœur qu'il soit là ce soir.
Bah, c'est très bien. Quelle discipline ?
Alors, il fait du karaté, de l'aïkido. Donc, le karaté, il en avait fait quand il était petit.
Et bon, il n'y a pas si longtemps que ça alors.
Oh, ouais, une petite vingtaine. Une quinzaine. Et de temps en temps, il vient au Yoseikan Budo quand il peut, par rapport à sa situation familiale.
D'accord. Bah, en tout cas, merci à tous les 2, 4, 6 d'avoir accepté notre invitation. Donc, tu m'avais dit 7, donc peut-être qu'il y en aura un autre qui va arriver. Et en deuxième partie d'émission, ça va te faire plaisir, Alexandre, on va parler de rugby à 13.
Eh oui.
Sur la saison.
Carpentras 13, oui, on reçoit Carpentras 13, le vrai club de rugby.
Oui, bien sûr. Bah, tout à fait. C'est pour ça qu'on les reçoit.
Exactement.
Bah, voilà.
Et c'est pour ça qu'ils aiment venir, d'ailleurs.
Voilà.
Oui.
Donc, comme j'en ai enfin terminé avec les prénoms, les noms, que j'ai réussi à me sortir la tête de l'eau, je vais te laisser la parole pour les restes sportifs.
Voilà. Moi, je donnerai les noms des sportifs aussi. Donc, j'essaierai de ne pas me
cafouiller. Ouais,
mais
toi, tu débouilles tellement bien, Valérie.
Oui, c'est ça. Arrête un peu. J'ai les chevilles qui enflent, alors arrête un petit peu. Voilà. Bon, allez, je vais commencer par le handball de Mazan, hein, par les filles, par les Mazanaises essentiellement. En moins de 14 ans filles, donc les joueuses de Mazan se sont largement imposées sur le score de 39-4 face à Lille-sur-la-Sorgue. En moins de 12 ans, donc Mazan recevait Apt et s'est aussi largement imposé 25-7. En équipe 2, Mazan donc la recevait Monteux et malheureusement donc a concédé a perdu tout simplement 26-8. En moins de 16 ans méditerranéens, Mazan donc se déplaçait à Puichéric, 37-25 pour Puichéric. En moins de 16 ans, Valréas donc contre Mazan 14-9. En moins de 12 ans, garçon, Mazan recevait Vaucons 8-1 et Apt 3-2. La Nationale 3, juste pour info, donc a disputé une rencontre de préparation face à Port-de-Bouc, qui est une équipe de Nationale 2, hein, à Plan d'Orgon. Et le score final, 27-27, donc au terme d'une partie très équilibrée. Donc bravo quand même les filles, même si c'était un match d'entraînement. 27-27 contre une équipe de Division 2, c'est pas mal. En basket maintenant, avec l'ABC Carpentras, en U15 filles, l'ABC Carpentras recevait Lille-sur-la-Sorgue. Et Carpentras s'est largement imposé 73-29. En U11 garçons. Donc là, Carpentras se déplaçait à Lille-sur-la-Sorgue et a concédé 17-34. En U13 garçons, Carpentras donc se déplaçait à Saint-Rémy-de-Provence et s'est malheureusement incliné 48-53. En U18 garçons, Carpentras s'est déplacé à Saint-Rémy-de-Provence et là aussi donc a perdu 48-51. En senior région filles, Carpentras recevait le club d'Orange et là aussi encore une défaite, hein, 45-68. En senior région garçon, l'ABC Carpentras recevait Montfavet et là encore une défaite, 56-69. Le tir à l'arc des archers de Saint-Siffrin de Carpentras. Donc 14 archers donc, du club de Carpentras donc participaient au championnat départemental de tir en salle organisé ce week-end par le club de Cavaillon. Écoutez bien.
Oui, en senior, on est tout oui.
Voilà, en senior femme, Claire Passin est championne de Vaucluse avec 559 points. Elle bat par la même occasion son record personnel et se rapproche de la qualification pour les championnats de France.
Bien.
C'est pas fini. Dans la même catégorie, Christelle Santo est vice-championne de Vaucluse et se classe 3e du concours. L'équipe féminine Claire Passe, Christelle Santo et Céline Bétron est championne de Vaucluse. Là, tu vois, que des titres. Chez les cadets, Émeric Jespierre termine sur la 3e marche du podium. Denis Bailly, en super vétéran, est vice-champion départemental. En senior homme, Benoît Bétron termine au pied du podium à égalité avec le 3e, départagé malheureusement au nombre de points, hein, de 10. Et l'équipe masculine, Benoît Bétron, Émeric Jespierre et Julien Sens, est 3e. Que des titres. Et la prochaine compétition se déroulera à Morières dans les 15 jours. Donc que des beaux titres. Maintenant, on va continuer avec l'athlétisme. Là aussi, on a, je pense, de futurs champions. Donc ce week-end se déroulait le meeting PACA indoor à Montpellier, organisé à Montpellier.
Bon, on en a parlé la semaine dernière.
Oui, on en avait parlé la semaine dernière. Donc, elle s'est déroulée en parallèle, hein, des demi-finales des championnats de France d'épreuves combinées. Donc, 7 athlètes de Carpentras ont participé aux 60 mètres plats. C'était quand même une première en indoor, hein. Donc intérieur, on a dit. Donc c'est pour l'or. Ouais.
Merci de la précision.
Ben ouais.
Non,
oui,
non, mais c'est
bon.
Vrai, indoor. Ouais.
Attends, ouais, nous, pour nous, c'est logique, mais pour certains, c'est pas logique. Donc c'était tous leur première participation. Hein.
Dedans.
Au premier tour, je donne juste le premier tour. Couston-Clerc, qui est une cadette.
C'est 60
femme.
Mètres. Ah. Ouais, pourquoi au premier tour?
Parce qu'il y a des qualifs et après, il y a les finales.
Ils ont pas fait un tour. Ils ont fait...
Voilà. Couston-Clerc, qui est une cadette féminine, donc finit 3e de sa série. Elle est qualifiée pour les finales, donc. Gassin-Louis, cadet homme, avec Papin Nils, Vatrin-César, Ardeleuigo, Dubois-Théo et Durangeau, donc se sont qualifiés aussi pour les finales, pour le deuxième tour.
Et les finales... écorché un prénom et un nom. Elle était bien, Alexandre, un peu.
Ah, bien joué. Sur le César-Vatrin, bien joué.
Ouais. Donc les finales. Claire Couston est devenue donc a gagné sa finale en 8 secondes 52. Elle réalise les minima directs pour les demi-finales des championnats de France interrégionaux. C'est pas mal. Papin Niels est vainqueur de sa finale en 7 secondes 48. Il réalise lui aussi les minima directs pour les demi-finales des championnats de France. Gassin-Louis est troisième de la finale en 7,66 en attente des repêchages pour les demi-finales des championnats de France. Lui, il attend. Malheureusement, il est en attente. Et Durand-José, troisième de sa finale en 7,74. Ils ne sont pas malheureusement sélectionnés pour les championnats de France. Et Vatrin César est second de sa finale en 7,80. Donc voilà. Je vais juste un petit remerciement donc, à Pascal Vassé, qu'on connaît bien, à Sébastien Gras, qu'on connaît bien aussi, à Céline Bétron et à Lefebvre Camille pour l'ensemble de ses résultats.
Donc tu fais une dédicace.
Voilà. Je remercie. Maintenant, je vais parler du mondial de handball.
Ah oui.
Voilà.
Qui a très bien commencé.
Voilà, la France.
Il va très bien finir.
Ah oui.
Trois matchs, trois succès. Voilà.
Par contre,
beau.
Comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai un petit coup de gueule après.
Ah bah.
J'ai que.
Un gros même.
Donc.
Mais on en parlera.
Donc, les trois matchs contre le Brésil, 31-16, contre le Japon, 31-19, et contre la Norvège, 31-28. Donc, trois beaux matchs.
Surtout que la Norvège aussi.
Surtout contre la Norvège.
Ouais.
La Norvège, c'est une grosse nation. Enfin, ils ont fait un bon match, hein, quand même.
Ouais. Donc, ils sont déjà premiers de leur poule, qualifiés pour les huitièmes de finale.
Hein. Bah, ils vont gagner.
Demain, la France va rencontrer la Russie, quatrième de la poule, quand même, de leur poule. C'est pas terrible. Ouais. Hein. Et deux jours plus tard, la Pologne, qui est cinquième. Et dans le groupe B, je vais juste donner les premiers de la groupe B actuellement. Donc, la Slovénie est première. En groupe C, c'est l'Allemagne. Et dans le groupe D, c'est la Suède. Donc, voilà. Donc, des matchs, de beaux matchs encore à attendre. Mais bon, la France est déjà qualifiée, elle, pour le 16e de finale.
Justement, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France de hand mérite d'être vue? Est-ce qu'ils sont forts?
Pour moi, c'est quand même une des meilleures équipes au monde. Hein. Et voilà. depuis pas mal d'années.
Et tout sport confondu, collectif.
En tout sport confondu?
Sport collectif confondu.
Bah oui, même les filles, hein. Mais je vois pas pourquoi.
Non, mais alors pourquoi je pose la question? Tout simplement parce que est-ce que c'est normal qu'un mondial de football, ça soit retransmis sur une chaîne gratuite,
tout à fait.
Type là, France 2, etc. Et là, on est sur une chaîne privée. On aura simplement la chance de pouvoir voir l'équipe de France lors des phases finales. Et je trouve ça lamentable parce qu'on a quand même la meilleure équipe au monde depuis des années et on n'est même pas foutu en France de les mettre en avant durant. Alors, effectivement, ils touchent pas autant d'argent que les footballeurs. Ils ne sont pas autant médiatisés, mais je trouve ça lamentable, alors qu'on aurait vraiment pu, en plus c'est en France, on aurait quand même pu faire l'effort de retransmettre l'ensemble des matchs sur une chaîne publique.
Ils ne gagnent pas autant que les footballeurs, mais quand même, je parle des équipes françaises à haut niveau gagnent bien leur vie quand même.
Mais c'est vrai que
maintenant, jusqu'à présent, ce n'est pas normal, effectivement, que ce soit sur une chaîne payante, ces matchs-là.
C'était le petit coup de gueule.
Je partage ton point de vue.
C'est comme les championnats nationaux, c'est pas normal que ce soit sur des chaînes payantes aussi. C'est tout ce qui est national doit être gratuit. Enfin, c'est notre droit de
après,
regarder.
C'est un large débat.
Voilà.
Et l'argent remporte tout.
Tout est une question d'argent.
Voilà,
une question d'argent. Avais-tu autre chose?
Juste Martin Fourcade, encore une fois, qui a gagné sa course poursuite. Donc, c'est sa 10e victoire cette année, quand même.
Pas mal. Ah oui, franchement, il est fort.
Il est très, très, très fort.
Très bien.
Et on en parlera plus longuement, peut-être, dans une autre émission.
Oui, parce que justement, c'est l'occasion de parler de ce grand, grand champion.
Tout à fait. C'est pas fini. La saison n'est pas finie. Et pour l'instant, il est au top.
On va continuer avec les résultats locaux du rugby à 13.
Du rugby à 13, parce qu'il y a eu des résultats, Souken, beaucoup de résultats. Déjà ce samedi, il y avait les U15 de Carpentras qui se déplaçaient à Salon. Et Carpentras s'est largement imposé 44-4. Les U15 d'Avignon se sont imposés à Saint-Martin 14-4. Et les U17 Avignon-Saint-Martin, le match où la semaine dernière ils s'étaient affrontés, il y avait eu 19-18 en Coupe de France, on s'en souvient. Et bien là, cette fois-ci, Avignon est allé à Saint-Martin et Avignon a gagné encore là-bas. Cette fois-ci sur le score de 24-16. Donc grosse performance des joueurs d'Avignon. Dimanche, il y avait en junior élite Avignon qui se déplaçait à Lézignan. Merci. Lézignan s'impose 26 à 24. En élite 1, Lézignan s'impose 50 à 38 contre Avignon. En U15, Entraigue gagne 46 à 6 contre Marseille. Donc ça, c'est assez large. En U17, Entraigue recevait Marseille. Et Marseille s'est largement imposé à Entraigues 52 à 0. En Elite 2, Entraigues bat Lyon 28-22. En U17, Carpentras recevait Lyon.
C'est ton club,
c'est mon équipe.
C'est ton équipe.
C'est mon équipe. Et ils se sont largement imposés 52 à 0.
Bah, ils ont pris un peu d'avance avant ton retour.
Bah, honnêtement, c'était un match très facile, hein, mais c'est une bonne victoire. Il y a eu des bonnes choses. Et en Elite 2, Carpentras recevait Villegaïnc. Là, c'était un match serré. J'ai assisté au match. C'était un match serré, mais ils ont lâché dans les 10 dernières minutes. Et Villegaïnc s'est imposé 25 à 14 contre Carpentras. On va parler un peu de rugby fauteuil parce que Avignon a joué contre Toulouse. Et bon, Avignon s'est imposé 74 à 19.
Ouais, on pourra en revenir justement avec les membres de l'équipe première tout à l'heure, justement sur
qui
ce match.
Arriver, ouais.
Voilà.
On va pouvoir en parler.
Très bien. Il y a autre chose ?
Des résultats nationaux, ça t'intéresse ?
Bon, on fait une petite pause et puis on en parlera après.
Pas de problème.
Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors, il y a un petit souci au niveau de la musique soir, en fait. Alors, c'est pas de la faute de Bruno que je salue. J'ai oublié de le saluer en début d'émission. C'est sa première émission de tout seul, mais en fait, on a un petit problème technique. Donc, bah écoute, on va continuer. On va continuer avec les résultats nationaux.
C'est les joies du direct, comme on dit.
Bah, tout à fait. Mais c'est peut-être parce que justement, on avait envie d'entendre les résultats nationaux.
Oui, parce qu'il y a eu quand même des beaux résultats. Déjà en rugby, il y a eu la Coupe d'Europe ce week-end. Et ça a été honnêtement un week-end pas trop mal pour les Français, pour les clubs français. On va noter déjà que le Racing, qui avait perdu 32 à 7 à domicile, cette fois-ci recevait les Leicester Tigers et ils sont imposés 34 à 3. Donc même s'ils sont éliminés, ça reste quand même une bonne victoire. Toulon s'est imposé contre les Sale Sharks 27 à 12. Ils peuvent encore espérer d'une qualification.
Et les Sharks, ils sont bons, hein.
Oui, donc, et surtout Toulon, Toulon actuellement, c'est pas trop ça. Ils ont pris une lourde défaite contre Clermont.
Normal.
Non, c'est pas normal. Quand on est Toulon, c'est pas normal, justement. À la limite, c'est normal qu'ils mettent une raclée à d'autres clubs, mais à Toulon, c'était pas normal et c'est dommage.
Le match était quand même pas mal, hein, jusqu'à la fin.
Le match lequel ?
De Toulon.
De ce week-end ?
Oui.
Oui, il était beau, mais après, ils ont bien joué sur ce match-là, mais il fallait aussi gagner contre Clermont. Parce que Clermont, ils méritent pas de gagner. Clermont,
t'as ensuite, vu, j'ai pas fait de commentaire.
Ah, vas-y. Clermont aussi se déplaçait à Bordeaux-Bègle et ça a été un tout petit score puisque Clermont s'est imposé seulement 9 à 6. Donc voilà, petit score en Coupe d'Europe. Et sachez que Toulouse a joué également parce que voilà, c'est quand même la meilleure équipe, hein, faut le souligner. Et ils ont perdu malheureusement.
Donc ils sont pas imposés, ils ont perdu.
Je me suis trompé. Ils sont donc inclinés face aux Wasps. 17-14, un essai pris dans les dernières minutes, dans les dernières secondes.
Donc pas
de
chance.
Ils ont encore un match à faire pour se qualifier. Ils vont recevoir les Wasps, équipe qui viennent de perdre. Il faut qu'ils rejouent contre eux et qu'ils gagnent.
Parce que ce sont des matchs aller-retour.
Il y a des matchs aller-retour, mais c'est assez compliqué la Coupe d'Europe. Je trouve ça très mal fait. C'est-à-dire que les qualifiés sont tous les premiers et les meilleurs deuxièmes.
Ah oui, donc.
Donc c'est compliqué et chaque point compte, quoi.
Bon. Ensuite, on a du football.
La Ligue 1.
Eh oui.
Eh oui, quand même. Donc ce week-end, il n'y avait pas de grosses affiches en Ligue 1, seulement une hier soir. Ce qu'on peut noter, c'est que Paris s'est imposé 1-0 face à Rennes à l'extérieur. Un but de la nouvelle recrue Julian Draxler. Nice a fait 0-0 contre Metz. Lyon s'est incliné contre Caen, 3 buts à 2. Et enfin, la déception du week-end, Monaco qui s'est imposé sur le terrain de l'Olympique de Marseille, 4 buts à 1. Pour en revenir un petit peu sur ce match,
dis-moi.
Une première mi-temps où Marseille est très bon. Honnêtement, il y a une très bonne équipe de Marseille, très bon jeu. Mais un arbitrage, toujours. Voilà,
clairement... Ah, ça y est, c'est la faute de l'arbitre.
Non, Clément Turpin contre l'OM, ça a toujours été. Ah. Voilà, ça a toujours été.
Et là, il a pas fait de cadeau à Marseille.
Il a fait ce que les Marseillais appellent une turpinade.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, en fait, siffler des fautes inexistantes contre l'OM. Une turpinade, c'est ça.
Ah.
Alors,
il y en a eu beaucoup de turpinades.
Ah, il y en a eu quelques-unes. Une grosse faute sur Rémi Cabella. Il s'est fait marcher dessus. Il a 7 points de suture. Il faut savoir qu'il a eu 7 points de suture sur ça. Ouais. Il n'y a même pas eu faute.
Ah.
Un but refusé par un hors-jeu inexistant que même l'entraîneur de l'OM a sorti son téléphone et l'a montré à l'arbitre de touche, la vidéo, pour dire qu'il y a but. Donc, il y a eu plein de trucs comme ça. Et à la fin, l'OM s'est incliné en deuxième mi-temps. 4 buts à 1.
Bon.
Et donc au classement, Monaco passe leader devant, donc à égalité de points avec Nice. Paris est à 3 points, donc Monaco et Nice ont 45 points, Paris a 42 points. Quatrième, on retrouve Lyon avec 34 points. Cinquième, Guingamp. Sixième, Marseille, donc il reste encore pas loin des places européennes. Et dans le trio du, donc les trois dernières places, Angers 18e, Metz 19e et Lorient 20e.
Eh ben, de beaux résultats sportifs. Alors, comme vous avez pu remarquer, on a eu des petits problèmes de musique. On va continuer. La musique, on la fera à 19h de manière à pouvoir avoir nos invités un maximum de temps. Hein, donc, le Ventoux Budokan avec Michael.
On est toujours là.
Vous êtes toujours là. Michael, tu t'intéresses un petit peu au sport collectif, le football, le rugby ou pas? Ou t'es vraiment...
Je veux pas vexer. Moi, tout sport est intéressant. Après, j'accroche pas trop avec le football, donc et je regarde pas trop le sport à la télé. Je préfère le pratiquer.
Ah, tu préfères le pratiquer. Bah,
voilà.
C'est pour ça que t'as une ligne d'athlète.
Je sais pas, mais il y a pas beaucoup de gras en tout cas, ça c'est sûr.
Alors, avant de parler du club, on va un petit peu démocratiser les différentes disciplines, hein, parce que il y a des mots, je dirais pas du charabia, parce que effectivement, toutes ces disciplines ont une définition. Mais on va bien préciser justement pour que nos auditeurs puissent savoir un petit peu quel est ce style d'art martial, si c'en est un, hein, et puis ensuite comment on peut le pratiquer. Alors on va commencer, comme il y a deux jeunes filles qui pratiquent le Yosekan Budo. C'est quoi le Yosekan Budo en fait? C'est pas très connu quand même.
Alors c'est une discipline qui mérite donc d'être mise en valeur parce que elle apporte beaucoup de choses et en gros on pourrait le résumer en une synthèse d'arts martiaux qui comprendrait donc le pied-point, projection, clé, sol, y compris les armes traditionnelles. Donc c'est quelque chose de très complet. C'est issu de l'art des samouraïs qui pratiquaient tout, y compris le tir à l'arc, monter à cheval, etc. quoi.
Est-ce qu'on peut comparer ça, on va dire, à ce qu'on appelle maintenant plus communément le combat libre? Parce que c'est vrai que de plus en plus, il y a une démocratisation de ce qu'on appelle le MMA, Mixed Martial Art, avec une grosse polémique, tu as dû entendre parler, hein, parce qu'il y a justement ceux qui veulent voir apparaître le MMA, réellement le MMA en France, alors que c'est formellement interdit. Il y a une réglementation qui est sortie récemment qui, on va dire, qui durcit encore plus les règles, ce qui fait que on peut en pratiquer aux États-Unis, en Angleterre, au niveau de, on va dire, proche de chez nous, il y a l'Angleterre, il y a l'Italie, l'Espagne, je crois. Mais c'est vrai qu'en France, c'est toujours pas. Est-ce que justement le Yosekan Budo, c'est un peu dans cette orientation-là? Et après, je te demanderai ton avis justement sur ce positionnement-là au niveau du gouvernement.
Ben, au travers de la technique, on peut retrouver parfois certaines formes. Maintenant, je pense que un point très important, il faut faire la différence entre art martial et sport de combat. Un art martial, il y a tout un code moral, une éthique. Après, je pense que voilà, le MMA, c'est une discipline complète et certainement très efficace.
C'est pas pareil que le Yosekan Budo.
Ah non, pas du tout. Le Yosekan Budo, c'est un art martial, donc on pratique en kimono. Y a une éthique, il y a une tradition à travers les saluts. Y a aussi des valeurs représentées dans le logo, dans la tenue. Le maître, il nous en parlait encore jeudi dernier. Et pour lui, le MMA, on revient au temps des gladiateurs, quoi. Enfin, pour lui, c'est un sport barbare. Après, pour moi, je regarde ça d'un autre œil. Techniquement, c'est certainement très efficace. En dehors de ça, voilà.
Mais l'art par contre, martial. Alors justement, par rapport à art martial et sport de combat, est-ce que c'est déjà bien défini l'art martial, c'est-à-dire c'est un art ancestral, ou bien c'est en fonction du professeur? Parce que selon on va dire la discipline sportive, si le professeur il fait le salut, il respecte ses élèves, il respecte les traditions, Donc ça, tu as le premier professeur. Et le deuxième professeur, bah, il fait la même discipline, mais il n'a pas cette hiérarchie de respect, etc. Est-ce que les deux peuvent être considérés quand même comme arts martiaux ?
Oui, tout à fait. Il y a le point de vue traditionnel et le point de vue sportif. Moi, je sais que j'axe plus sur le côté traditionnel et le côté technique. Après, il y a tout le côté sportif, où il y aura peut-être un peu moins de rituels, etc. Mais dans tous les cas, le combat qui reste sportif, donc en compétition, il est vraiment pourvu de valeurs et comme la noblesse, le voilà, enfin, il n'y a pas de mauvais coup. On ne va pas essayer de fracasser l'autre ou essayer de lui mettre un coup en traître ou ce genre de choses. Il y a une noblesse de l'art et le côté sportif est réglementé par des règles de sécurité. Donc, des règles de sécurité qui mettent en qui protègent le compétiteur et à la fois du matériel de protection qui permet de porter à la fois les coups pour le côté réel et le protéger donc de toute lésion et de tout accident.
Alors, on va faire une petite pause musicale parce que maintenant, la musique est revenue. Et on continuera justement parce qu'on a quand même deux pratiquantes, Priscilla et Clara. Et j'aimerais bien avoir leur avis sur le sport qu'elles pratiquent. On fait la pause d'abord, mais avoir leur avis justement, pourquoi elles ont choisi le Hosekan Budo plus que le karaté ou une autre discipline. Allez, on se retrouve juste après ça. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul, darling. Oh, I know a sad soul, sad soul. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls, darling. Oh, I know sad souls, sad souls. I'm Voilà, donc je m'attendais un petit générique au début, en fait, c'est pour ça, ça m'a un petit peu surpris. Alors si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans votre émission hebdomadaire à TV Sport. Aujourd'hui, on parle d'arts martiaux, voilà, en première partie d'émission, avec tous nos invités, ils sont 6 autour de la table. Alors je vais essayer de ne pas me tromper dans les prénoms et dans les noms, tout à l'heure c'était un petit peu compliqué. Donc tout d'abord, la présidente du club, Audrey Arliot. Bonsoir Audrey.
Bonsoir, toujours là.
Toujours là. Ensuite, professeur de karaté, ceinture noire, premier dan, Véronique Couzereau.
Bonsoir, toujours présente aussi.
Juste à côté, bah, c'est ton fils, Michael Mass, professeur de Yoseken Budo, d'Aikido, de karaté, de Kobudo. T'as des ceintures, hein?
Oui.
C'est pas trop lourd?
Ça commence un peu, mais...
Ça commence un petit peu, hein.
Ouais, avec la vieillesse...
Ah bah ça, t'as l'air très très vieux, ça se voit. Et puis t'es venu également avec, avec des élèves. Donc deux jeunes filles, Priscilla Briançon, qui est élève de Yoseken Budo. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Et Clara Blanc, également élève de Yoseken Budo.
Bonjour.
Et il n'y a pas que des jeunes filles, hein, il y a des hommes qui et sportifs aussi qui sont dans le club. Et on a également David Gamet qui est élève de karaté d'Aïkido, c'est ça?
C'est bien ça, bonsoir. Bon.
Ben bonsoir David, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de te présenter en début d'émission, mais en tout cas merci d'être là aussi.
C'est bon, le samouraï du club.
C'est le samouraï. Ben écoute, on en parlera tout à l'heure justement. Et on parlait juste avant la pause musicale du Yoseken Budo. Avant de laisser parler justement tes élèves sur le Yoseken Budo, je voudrais avoir ton positionnement justement par rapport à ce durcissement de la loi sur le MMA en France. En quelques mots, hein.
Ben, moi, je suis pour la libre pratique, que tout le monde puisse pratiquer ce qu'il aime. Après, chacun a son point de vue sur la pratique et je pense important... que chacun puisse pratiquer ce qu'il aime en toute liberté. Moi, j'ai mon point de vue sur la pratique et sur les arts martiaux parce que j'ai été éduqué avec ces valeurs. Mais pour moi, c'est important aussi que des disciplines émergentes aient leur place aussi. Mais dans la préservation et l'intégrité de l'élève, la pratique loisir, pour moi, en MMA, je pense que c'est intéressant de développer parce que c'est très efficace et c'est voilà, comme toute discipline, c'est intéressant. Par contre, je ne suis pas favorable à la compétition et à ce système qui tend à vraiment écraser enfin, à détruire le partenaire. Ça, pour moi, je peux pas l'accepter.
Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop justement ces disciplines, hein, c'est quand on regarde ce sport, c'est dans une cage, pour protéger justement l'intégrité, même si effectivement tu as ton point de vue là-dessus, mais ils utilisent ça pour protéger, pour éviter que le combattant passe au-dessus des cordes, comme on peut voir sur un ring de boxe. Voilà. Mais donc tout ce qui est dans une cage, c'est ce qu'on appelle le MMA, il y a deux grosses organisations, l'UFC et le Bellator entre autres. Alors, justement, j'ai deux jeunes filles. On va revenir au Yoseken Budo. Le Yoseken Budo, donc tout d'abord Priscilla, ça fait 2 ans que tu pratiques le Yoseken Budo. Pourquoi t'es orientée dans cette discipline? Tu faisais des arts martiaux avant?
D'abord, au début, je l'ai connue à l'association sportive à Carpentras. Mmh. Et j'ai rencontré Michael, qui m'a montré quel sport c'était. Et surtout tous les sports, le sport que j'ai préféré le plus était le Yoseken Budo, car c'est plus dans la boxe, et la boxe c'est ce qui me plaît le plus.
Ouais, parce que le karaté c'est beaucoup plus apprentissage et il y a moins de coups portés, c'est ça?
Après je saurais pas...
Non mais toi par rapport à ça, c'est pour ça que t'as choisi, t'as mis les coups en fait.
Oui, je préfère les coups, oui c'est ça.
Ah c'est ça,
ouais. Je préfère la boxe.
Donc vaut mieux, c'est bien qu'on soit loin de toi et moi. Donc, on sait jamais, on sait jamais. Et toi Clara, donc c'est ta première année.
Oui.
Pourquoi avoir fait du Yoseken Budo?
Je préférais ça parce que c'est un peu un mélange de tout. Enfin, il y a du karaté, il y a avec les armes, ça fait aussi boxe, donc je préférais. Après au début il y a une sorte de détente avant de commencer. Mmh. On peut apprendre les coups de pied, les coups de poing, les chutes.
Ah ouais, donc c'est complet.
Ouais, je préférais.
En fait, elles apprennent à se défendre contre les futurs hommes, hein, leurs futurs conjoints ou leurs futurs copains. Ouais. Voilà.
C'est ça.
Esquiver, chuter.
C'est pour ça qu'il faut être très gentil.
Coup de poing, coup de pied.
Il faut être très gentil avec eux.
Les arts martiaux, voilà, on voit souvent ça comme ça, mais à la fois, j'ai envie, par rapport aux hommes, de dire aussi aimer, parce que les arts martiaux, c'est pas que violence. Et l'aïkido, c'est aussi la voie de l'union des énergies. On pourrait le dire par l'amour. Hein. Aï, ça peut être traduit par amour. Donc, arts martiaux, il y a martial, certes, la guerre, mais il y a aussi le côté artistique et puis le côté harmonie.
Qu'est-ce que tu parles bien, Michael? Allez, t'as vu un peu, il pourrait même faire la politique.
Je compte me présenter bientôt.
Ah ben, c'est ça. Alors par contre, comme il y a Audrey qui est présidente, justement, tu veux préciser quelque chose?
Oui, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que Michael vient de dire. Et puis aussi,
c'est que des bêtises. Ouais,
non, mais... non. Tout le côté MMA, c'est que ça dépend aussi de l'optique dans laquelle on pratique. Et si on veut se défoncer, se battre jusqu'à 30 ans et après être tout calcifié et ne plus pouvoir pratiquer, c'est un choix aussi. Et il y a un autre, c'est un autre moyen de pratiquer les arts martiaux qui préserve l'intégrité physique et qui nous assure qu'à 50, 60 ans, on peut encore faire des katas, 70 ans aussi, on peut chuter aussi, rester souple avec... Voilà, donc nous, à l'association, avant tout Budokan, on a aussi cette optique-là. Et si vous voulez commencer les arts martiaux à 60 ans, vous êtes un senior, on peut aussi vous apprendre.
Voilà, c'est vraiment la pratique loisir, en fait, un plaisir.
Ce n'est pas antithétique avec l'efficacité, la puissance.
Ah oui, non, mais on est d'accord.
Il y a deux. Michael va s'adapter en fait à l'élève et on va faire des groupes de différents niveaux de pratique. Ceux qui veulent y aller à fond, ils pourront. Ceux qui veulent travailler plus tranquillement aussi. Mais au bout d'un moment, on tourne, on partage, parce qu'il faut quand même. Il faut avancer, il faut que le groupe avance à une certaine, quand même, voilà, une certaine vitesse.
Et donc, c'est pour toutes les disciplines, Michael, justement, que tu pratiques ça. Alors, je vois que les jeunes filles, elles sont assez jeunes. Le Yoseikan Budo, c'est à partir de quel âge?
Moi, voilà. Après, il y a...
Au niveau du club, tu les prends à quel âge?
Alors, je les prends en général à partir de 9 ans. Pourquoi? Parce que pour moi... il y a certains abords comme les clés, les torsions, les contraintes articulaires, ce genre de choses. Il faut savoir que au niveau biomécanique, les enfants, ils ont les articulations relativement souples en formation, et que des contraintes articulaires et ce genre de choses, c'est pas génial à cet âge-là. Donc à partir de 9 ans, ils ont une concentration, je pense, suffisante pour pouvoir contrôler leurs mouvements et à la fois respecter leurs partenaires. Et ce sont des cours donc qui sont adaptés justement pour pas qu'ils se blessent. Donc il y a certains ateliers qui seront plus présentés en cours adulte qu'en cours enfant.
Et justement, il y a une discipline que je ne connaissais pas jusqu'à te rencontrer, c'est le Kobudo. Est-ce que le Kobudo, justement, c'est pour les enfants un petit peu plus jeunes qui ne peuvent pas se mettre à cette discipline-là? Ils se disent, bon, ben voilà, on va trouver un palliatif, ou non, ça n'a rien à voir?
Alors, non, parce que justement, je les prends quand même à partir de 8 ans, en exception 9 ans pour le Yoseikan Budo. Et pour le Kobudo, je les prends à partir de 6 ans.
Et c'est quoi exactement le Kobudo alors?
Alors le Kobudo, en fait, c'est la pratique des armes traditionnelles. Donc moi, dans un esprit, parce que quand même le slogan du Yoseikan Budo, enfin de ce qu'on en a fait du club, c'est tradition, adaptation, évolution. Donc il y a la tradition, certes, des armes traditionnelles comme le sabre, les bâtons... Les sais, c'est une sorte de trident, un peu comme les tortues
ninja. Pas pour les enfants, à partir de 6 ans. Hein. Ils ne battent pas avec des sabres en bois et des sabres en métal. Hein. Je précise.
Je parle de la discipline en globalité, donc enfants. Mais les enfants, ce sera plus des armes en mousse que je proposerai. Nunchaku en mousse, sabre en mousse.
Oui, c'est moins dangereux.
Bah, c'est plus ludique déjà. Et puis, voilà, le cimetière, il est assez loin. Donc, les convois, après, ça coûte cher, les assurances.
Bah, c'est clair.
Ah non, voilà. Donc voilà, dans un esprit de ludique, ce sera plus des armes en mousse. On a aussi donc, je disais, les armes traditionnelles, certes, comme les tonfa, les sai, les bâtons, le sabre, mais également les armes modernes. On a le tanto, c'est un couteau. On a le revolver, donc ce sont des revolvers en caoutchouc. Et j'apprends à désarmer. C'est simplement
un outil. C'est un peu du self-défense alors.
Voilà, ça rejoint un peu le self-défense. Et à la fois, les enfants, ils sont vraiment contents de pouvoir apprendre à désarmer un pistolet, même si, soyons honnêtes, c'est pas quelque chose qui, on va pas parler d'efficacité, là, ça reste dans le plan ludique. Moi, je dis, quelqu'un qui vous menace avec un revolver, donnez tout ce que vous avez, et puis rendez-vous. Des héros, il y en a plein les cimetières, c'est pas grave. Donnez votre iPhone ou votre portefeuille. Mais c'est plus dans un esprit de pratique ludique où on apprend à désarmer. Et on sait jamais, ça peut servir. Mais voilà, je ne prétends pas à une efficacité, surtout auprès des enfants.
Au moins, ça permet d'être clair sur le kobudo. C'est vrai que c'est une discipline que je connaissais pas trop. Audrey ?
Oui, je vais encore préciser quelque chose sur le kobudo. Les adultes, nous, on travaille avec donc les armes en bois, en métal, et aussi des armes qui prennent énormément de place et qui sont longues, comme les naginata, qui ne mesurent combien, 1m80 ?
Les naginata, ça peut être même jusqu'à 2m20, ce sont des halbardes, et le yali aussi, la lance.
Alors ça demande un espace de pratique assez large autour de nous, et bien que notre dojo soit spacieux, ça devient vite dangereux. Donc on a accès à côté au gymnase, dans lequel on peut pratiquer pour le cours de kobudo, spécialement pour le kobudo, et là on a un grand espace, alors on peut faire des mouvements, on peut se déplacer, courir... et c'est vraiment très intéressant pour cette pratique-là.
Parce que le club est situé, et les entraînements ont lieu à quel endroit ?
Eh bien justement, on est à Serres, donc on est situé...
Donc à côté de chez nous ?
Voilà, c'est ça.
Juste
tout
à côté.
On est dans la MEX, l'arc-en-ciel, le gymnase le dojo attenant. Le dojo est suffisant pour les cours, comme vous disiez Audrey. Et nous avons un gymnase de 700 mètres carrés... pour les cours de kobudo qui nécessitent de l'espace et pour les événements sur demande. Et d'ailleurs, nous préparons un événement de taille, de grande taille, peut-être au niveau même national. Et je reviendrai en parler ultérieurement dans l'émission.
C'est à quelle époque ?
En mars prochain.
Mars.
Ouais. Bon, c'est bon, on va le réinviter. Hein. C'est tellement sympathique de parler avec eux, justement. Et puis la philosophie qui porte des arts martiaux, c'est une bonne philosophie, je trouve. Non, t'en penses quoi, Valérie ?
Ah, mais moi, j'apprécie énormément cette philosophie, oui.
Ouais, c'est ça.
Ouais, oui. Ne pas faire mal à son prochain, et c'est les valeurs aussi, c'est les valeurs.
Ouais, après, faut faire gaffe avec les deux filles, Clara et Priscilla, on ne sait pas trop hein, là-dessus.
Faut faire
attention.
Elles sont juste là pour boxer.
Elles sont juste là pour boxer. Sinon, il y a le karaté, l'aïkido.
Oui, tout à fait. Alors le karaté, c'est quand même plus connu dans pour les novices ou les gens qui pratiquent pas. Karaté, c'est quand même quelque chose qui parle plus dans la tête des gens.
Et qui peut être une discipline olympique prochainement dès 2020 à Tokyo. Redevient une discipline.
Oui, redevient parce que.
Oui, parce que j'allais dire à un moment donné.
Je me rappelle, il me semble qu'à l'époque, Pina, il avait participé plus ou moins, je sais plus. Donc,
Oui, il y avait Christophe Pina, il y avait l'ancienne équipe de France, hein, Valera, etc.
Le karaté, c'est vrai que c'est très très connu. Et puis il y a l'aïkido aussi.
Voilà, l'aïkido, ça aussi, ça parle quand même un peu plus aux gens que le Yosekan Budo. Donc l'aïkido, c'est toujours un art, dirigé. Beaucoup plus souple, où on utilise la force de l'adversaire. Ça plaît beaucoup au public féminin parce qu'on n'a pas besoin de force physique et c'est quelque chose qui peut être aussi gracieux, mais qui peut d'un œil extérieur qui pourrait s'apparenter à la danse. Et ça en reste pas moins efficace puisque mon aïkido est quand même largement inspiré de l'école Mochizuki. Donc on utilise en application des coups de poing et des coups de pied qu'on ne retrouve pas dans l'aïkido traditionnel.
J'avais une question à poser à Véronique par rapport au karaté. Donc, tu es professeur de karaté.
Oui, tout à fait.
C'est quel est le style que tu enseignes ? Le style de karaté ?
Le style Wado Ryu, c'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que vient de dire Mickaël à l'instant. Inutile d'être... merci. Inutile d'être tanké, balèze. Moi, je fais moins de 50 kilos, beaucoup moins même. Et j'ai un certain âge, une cinquantaine d'années. Et je peux être, je me sens tout à fait à l'aise devant quelqu'un d'un mètre 80 comme un petit. Ça permet de nous adapter vraiment dans toutes les situations parce que ce karaté-là est fait aussi bien pour les enfants, pour les personnes, on va dire, entre guillemets, âgées comme moi, les jeunes, tout le monde y
trouve. Oh, t'es pas vieille, âgée.
Non, mais tout est relatif. Tout est relatif. Par rapport à mon fils, par exemple.
Ah oui, bah.
20 ans de différence quand même.
C'est encore un bébé, lui.
J'aimerais bien. Oui, lui, il a encore des couches, il le dit. C'est entre nous, ça. J'ai pas fini. Et voilà, donc, je vois pas ce que je peux dire de plus. Parce que...
Et t'as combien de d'élèves par cours à peu près ?
Alors bon, quand ils sont assez assidus, chez les enfants, on peut en avoir combien, Mika ? Facilement 15.
15 en karaté. Ils sont une douzaine.
Voilà, 12-15 au Kobudo, enseignement des armes. Et oui, au Sekan aussi, nous avons un petit groupe.
Ils sont à peu près
une dizaine.
Ah, ils sont 5, 6, 7. Ils sont 7 au Yosekambudo enfant.
D'accord, ok. Ouais. Donc, pas mal de monde par cours, c'est bien comme ça. Et voilà, puis, oui, pas trop nombreux non plus. Il y a du monde sans avoir beaucoup de monde, comme ça, ça permet d'individualiser.
Tout à fait.
Michael, donc il y a justement un autre élève que tu voudrais justement nous parler un peu plus en détail. Il s'agit de David Gamet. Alors, avant que tu parles de David, David, donc toi, tu fais du karaté, de l'aïkido. Tu as déjà pratiqué, comme disait Michael, du karaté, je crois. Et c'est ta première année en aïkido ou c'est l'inverse ?
Oui, j'ai déjà pratiqué du karaté, il y a 17 ans à peu près. Et là, oui, j'ai attaqué cette année à faire du karaté, un peu d'aïkido, et de temps en temps, je vais au cours de Yosekan.
D'accord. Voilà. Et Michael, justement, pourquoi David est si important dans la sauce ?
Ah ben, il a été propulsé malgré lui.
Parce que c'est l'actionnaire principal, c'est ça ?
C'est le mécène. C'est
il a gagné au l'euro million, c'est... Non.
Oui. Voilà, c'est ça. Ah,
ouais. Je ramène les calaches au Kobudo.
Ah, c'est bon ça.
On en avait parlé une fois dans un poste, c'était rigolo. Non, voilà, en fait, déjà j'ai une annonce à vous faire, c'est que ça fait quelques années que je prépare cet examen. 2 ans de façon assidue avec Maître Mochizuki sur Salon de Provence et donc de façon plus assidue depuis 2 mois où des fois je commençais à 15h l'entraînement et je finissais à 3h du matin, donc ça faisait des plages horaires assez importantes. Je me suis donné à fond tous les jours. J'avais préparé donc l'examen avec une personne avec qui je devais présenter, avec qui on avait travaillé le programme.
C'est quoi l'examen ?
C'était donc l'examen de 4e dan.
Ah,
voilà.
De karaté.
De Yosekan Budo. Mais c'est le même grade puisque c'est la FFKDA, c'est la commission des grades équivalents. Donc le grade est aussi bien valable en karaté qu'en Yosekan Budo. On peut pas le passer dans les deux. Je peux pas le passer dans le karaté et dans le Yosekan Budo. On peut pas le passer dans les deux. Donc moi j'ai choisi de le passer en Yosekan Budo parce que c'était un réel défi pour moi. Parce que il est vraiment beaucoup plus difficile à passer qu'en karaté. Bon, en karaté, il m'aurait suffi de travailler un petit peu et puis le programme, je le connaissais déjà. Et par contre, en Yosekan Budo, j'ai dû vraiment travailler pour arriver à ce niveau-là. Et donc, mon partenaire, je devais passer le 8 janvier l'examen et le 28 décembre, il m'a annoncé qu'il ne pourrait pas être là. Donc, catastrophe.
Ah oui.
Voilà, parce que là, il faut quand même. Il faut
oh,
quand
le
même...
lâcheur. Oh là là.
Ah, c'était difficile. Ouais.
On va donner son nom, il s'appelle.
On va pas faire ça quand même.
Ah, je rigole.
Non, voilà, avec un haut gradé. C'était un haut gradé qui travaille. Qui est quand même 3e dan. Voilà. Et donc, j'ai demandé à David s'il pouvait le remplacer. Ce qui a été très difficile pour lui et j'ai pas été tendre avec lui.
Oui, ça m'a valu des bleus, des croûtes. mais bon, j'ai pris plaisir en tout cas, ça c'est sûr.
Et donc il a vraiment il a accepté de me faire partenaire pour cet événement. Et donc nous sommes allés au Pôle France à Montpellier le dimanche. Je l'ai présenté en tant que débutant. Et donc, j'ai réussi mon examen de 4e dan.
Bravo, bravo, on peut l'applaudir.
Merci.
Bravo,
De rien, de rien.
Donc en fait, Michael, il a amené le champagne. On va s'embrasser le champagne. Non, ah non.
Après l'émission, après l'émission.
Ah bon, après l'émission.
Sinon, on va bégayer. Donc vraiment, je souhaitais vraiment remercier David parce que sinon, j'aurais pas pu le passer. Et son engagement, il a été entier, sachant qu'il travaille, il a une situation de famille. Il est venu s'entraîner avec moi tous les soirs. Ça a été contraignant pour lui parce qu'il s'est pas très bien chuté. Il a appris à chuter en une semaine, d'abord sur le matelas et après sur le dur. Et quand on est arrivé à l'examen, j'ai vu que c'était des tatamis imbriqués et qui sont très durs. Et je lui ai dit, David, tu vas morfler. Et il m'a répondu, Michael, je me sacrifie, jette-moi. C'est aujourd'hui
c'est
ou jamais.
C'est ça, c'est vrai.
Donc, bah, c'est vrai que David, toi, t'as pratiqué le karaté combien de temps avant?
Je suis allé jusqu'à la ceinture verte. Donc, on passait une ceinture par année. Ça commence par la blanche, la jaune, la orange et la verte. Donc, j'avais fait 4 ans à peu près. À peu près 4-5 ans de karaté.
Bah, bravo, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Nous, on va faire une petite pause musicale. En tout cas, bon, merci d'avoir accepté notre invitation, pardon, parce que juste après, il y a le rugby à 13. Par contre, donc, nous avons bien noté qu'il y avait le rendez-vous très très important. Et comme tu le disais, on se fera un plaisir de vous recevoir et on pourra reparler effectivement du club, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses d'autres à dire. Et donc, on parlera du club et je pense que ça sera une émission qui sera entièrement consacrée justement à votre club, à l'événement. C'est un petit peu la philosophie de l'émission, c'est-à-dire que quand il y a un événement important, on parle du club, on parle de l'événement et ça dure justement l'émission entière. Donc il va falloir trouver un remplaçant pour ton cours, parce que je sais que tu as cours à 19h30 et donc on se fera un plaisir justement de parler de ce rendez-vous cours en mars. La date c'est
25.
Voilà.
Alors, 25 mars.
Alors ce sera soit le 25, soit 25 et 26. Voilà.
Bon, ben, on aura l'occasion d'en parler justement la semaine avant. Merci vraiment à tous les 6 d'avoir accepté notre invitation. Et nous, on se retrouve merci. Juste après bon, la petite pause musicale. À bientôt. voilà, donc de retour. Alors ce soir, c'est la grève du jingle. C'est dommage parce qu'on dit avec Alexandre et Valérie. Donc je vais le dire avec Alexandre et Valérie. Donc dans le studio de Carpentraser, on est en direct sur le 102.2. Et Alexandre, on peut nous réécouter, je suppose.
Oui, on peut nous réécouter. Donc déjà, la rediffusion, c'est demain matin de 6h30 à 8h. Et on peut nous réécouter. Donc le podcast sera diffusé demain dans la journée sur le site www.rtvfm.net et sur la page Facebook de la radio RTVFM.
Bon, très bien. Tu parles bien. Hein.
Ah, merci.
Alors, en deuxième partie d'émission, on a voulu te faire plaisir avec un club qui est un club montant hein, quand même et qui se débrouille pas si mal que ça cette année.
Oui.
Hein, on va dire ça. C'est le rugby à 13, alors que tu peux faire le rugby à 15 en début d'année, hein, tu m'as dit, que tu voulais changer. Non,
jamais de la vie.
Et par contre, on a une personnalité quand même qui est avec nous, Vincent Conta, le capitaine de l'équipe première. Merci Vincent d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, l'entraîneur devait arriver, mais c'est pas grave, s'il n'est pas là, je sais que Vincent, il connaîtra tous les sujets, parce qu'on va parler justement de l'équipe première. Hein, donc, l'équipe première qui... quel score ils ont fait hier?
24 à 16, 19 c'est ça.
Ils ont perdu.
25.
Vous avez perdu 25, hier. C'est pour ça qu'on les invite aujourd'hui, parce qu'ils ont besoin de se racheter.
Oui, mais même ils ont fait une bonne prestation malgré les 10 dernières minutes.
Mais c'est pas la première fois. Hein. À chaque fois, il y a un problème dans le dernier quart d'heure. Je sais pas ce que t'en penses. Je te lance un petit peu la pierre comme ça. Mais c'est vrai que la dernière fois, on avait vu, on avait fait un match en direct. C'était pareil, le dernier quart d'heure, ça avait été un peu plus laborieux. Bon, vous aviez gagné, mais il avait été quand même plus laborieux. Et à chaque fois, quand on peut lire les articles dans les journaux concernant votre équipe, enfin ton équipe, c'est à chaque fois le dernier quart d'heure, voire les 10 dernières minutes qui pêchent. Parce que ce match, vous l'aviez, quoi.
Oui, on le tenait. Le match était le match d'hier était quand même serré tout au long de la partie. Après, c'est vrai que, comme a dit Alexandre, on perd sur les 10 dernières minutes. Une cause, je pense, à cette défaite, sur les fins de match, c'est peut-être manque d'expérience qui nous fait manque de maîtrise sur le cours du match.
Le cours du match, oui.
Peut-être pas savoir gérer les matchs correctement ou prendre le temps à des moments importants de se poser.
Ne serait-ce pas une perte de concentration? Justement, vous menez au niveau du score, et puis à un moment donné, les joueurs pensent, peut-être à tort, que le match est dans la poche, quoi. Non?
Peut-être un manque de concentration. Après, je pense qu'il faut qu'on progresse sur comment savoir gérer nos temps faibles. Parce que dans nos temps forts, on arrive quand même à marquer au score, à marquer des essais ou des pénalités. Donc, c'est pas notre principal défaut, c'est plus au niveau de nos temps faibles. Des fois, on a des passages de 10 minutes où on a l'impression qu'on a du mal à jouer notre jeu et on encaisse pas mal de pénalités, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de fautes, soit des fautes de main, soit des fautes de défense. Et c'est dans ces moments-là qu'on prend des points, en fait.
C'est vrai qu'on a, lorsqu'on a fait justement la rediffusion du match, hein, c'était contre Lyon, vous avez pris une avance, mais alors énorme en première mi-temps. Et juste, allez, 10 minutes avant la fin de la première mi-temps, de suite, il y a eu une sorte de baisse de régime. Donc, c'est-à-dire, alors ça se matérialise dans moins des fautes un petit peu stupides, un manque de concentration parce que il y a des passes qui sont pas données. Et on l'a revu, si tu veux, en deuxième partie. Et est-ce que justement, est-ce que déjà toi tu t'en es rendu compte?
Ah oui, moi je m'en rends compte et c'est le discours que je tiens auprès de mes coéquipiers. Le problème c'est que le rugby à 13 c'est un sport qui est dur et qu'il laisse pas beaucoup de place à l'erreur. C'est-à-dire qu'on peut être bon pendant trois quarts du match, si pendant 10 minutes on est absent, ça peut se retourner contre nous et on peut encaisser pas mal de points.
Est-ce que c'est pas justement dû à de la fatigue? Parce que comme tu disais, c'est quand même hyper intense. Le rugby à 13, c'est bon, malheureusement, c'est pas très médiatisé, donc c'est vrai que les auditeurs connaissent plus le rugby à 15, mais le rugby à 15, il y a beaucoup de temps d'arrêt de jeu. Alors que vous êtes toujours au charbon, quoi, hein, que tu sois à l'arrière, à l'avant. Mais est-ce que justement, il y a pas cette fatigue qui arrive à la fin de chaque... Il faudrait que les matchs durent 30 minutes.
Ouais. On va y penser. On serait moins fatigué le lendemain.
Bah, c'est pour ça.
Non, mais c'est
pour
vrai
la troisième mi-temps.
C'est vrai que c'est le rugby à 13 est très intense par rapport à un rugby à 15. Hein. J'avais été surprise, moi. Hein.
C'est un sport qu'on va dire. C'est pas le même. C'est un sport qui est plus athlétique. Où on a des gabarits plus uniformes. On peut comparer les gabarits des joueurs de rugby à 13 un peu aux gabarits des joueurs de handball. Bon, à part qu'ils soient un peu plus grands au niveau de la taille, mais après, ça se ressemble, c'est rythmé. On a moins de différence de gabarit par rapport au rugby à 15. Par exemple, sur les postes des premières lignes qui sont quand même assez costauds et moins endurants. Et après, ils ont les postes de seconde ligne qui sont plus grands pour essayer d'attraper les ballons sur les touches. C'est ce que nous, du fait qu'on ne pousse pas les mêlées et qu'il n'y a pas de touches aussi, on n'a pas besoin de cette différence de gabarit. Le plus important, c'est quand même d'être endurant et être rapide, quoi.
Ben, c'est vrai que quand on regarde le style des premières lignes au 15 et celles du 13, c'est vrai qu'il y en a certains qui mangent bien à midi, quoi. Ceux du 15, on voit qu'ils n'ont pas besoin, à part certains, hein, c'est vrai que maintenant ça a beaucoup changé avec le professionnalisme, mais c'est vrai qu'on voit la différence au rugby à 15, ne serait-ce qu'au niveau des donc, premières lignes, parce qu'ils sont très puissants, assez massifs, la deuxième ligne, parce qu'ils sont très très grands, hein, minimum 2 mètres, et puis après bah, les autres. Vous, on a l'impression que un arrière pourrait prendre la place d'une première ligne pratiquement.
Oui, pour mettre une image à ce que l'on vient de dire, c'est que une équipe de rugby à 15, sans les numéros, on pourrait de suite placer les joueurs dans leur poste sans connaître spécialement leur poste spécifique. Ça se voit quand même à l'œil. Tandis qu'une équipe de rugby à 13, les gabarits se ressemblent, on pourrait pas dire tel joueur joue par exemple devant ou un joueur joue derrière. Après, c'est sûr qu'il y a des postes comme les meneurs de jeu sont un peu plus minces et, parce qu'ils ont des qualités plus sur la vitesse et sur et de mener le jeu. Donc là, il y a un peu de différence. Mais après, au niveau des avant, trois quarts, ça se ressemble.
Alors, au niveau justement de l'équipe première, elle est composée de combien de joueurs?
Alors nous, on a un effectif de 22 joueurs, équipe première. Après, on a 2-3 stagiaires. Alors peut-être que je dis des bêtises, mais de mémoire, ça tourne autour de ce chiffre. Après, le club de Carpentras détient également une réserve qui joue au niveau fédéral. Donc,
tu vas piocher de temps en temps
Si des joueurs sont performants en réserve et sont sérieux aux entraînements, ils peuvent intégrer le groupe de l'effectif premier.
Et depuis les dernières années, l'effectif, il est en hausse, il est en baisse?
Alors moi, ça fait 2 ans que je suis revenu au club. Alors je peux comparer par rapport à l'année dernière. C'est vrai qu'au niveau de la quantité, on a un meilleur effectif. Et même au niveau de la qualité.
Au niveau de la qualité, c'est...
Principalement des joueurs, on a une meilleure qualité, une meilleure quantité par rapport à l'année dernière. Après, on n'a pas encore réussi à trouver nos repères, je pense.
Parce que toi, tu as quand même un vécu à haut niveau.
Oui.
Hein, tu as joué au 13 catalan ou à côté
de Perpignan.
À côté de Perpignan. Hein. Donc, tu connais un petit peu justement le sport professionnel.
Oui.
À l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait la différence justement, à part les moyens financiers, bien entendu, qui sont le nerf de la guerre, entre Carpentras et style le 13 catalan, par exemple?
Moi, je pense que c'est la mentalité. C'est le... Comme je
c'est-à-dire, souvent... c'est vraiment la gagne chez eux. Et vous, non? Non,
non, c'est pas sur ce point-là. Mais après, c'est une... Comme je répète souvent à mon équipe, c'est la mentalité qu'on a aux entraînements, en fait. Je pense qu'on a un manque d'investissement. Il y a un manque peut-être de sérieux au niveau des entraînements. Et je pense que c'est sur ces points-là qu'il faut qu'on progresse pour pouvoir progresser et gagner plus de matchs et essayer de remonter au classement.
Et justement, est-ce que ce n'est pas lié au problème de baisse de régime? Tu disais un manque de sérieux aux entraînements. Donc ça veut dire peut-être moins de cardio pour tes joueurs. Et puis au niveau mental, je ne sais pas, vous êtes peut-être un préparateur mental, mais c'est vrai qu'après, dès qu'ils sont à un niveau de points suffisamment éloigné, ils se disent « Oh ben, on va baisser un petit peu le régime pour pouvoir arriver en deuxième mi-temps manière confortable. Alors que peut-être que la philosophie, alors je prends le 13 catalan, parce que c'est la meilleure équipe de France, et peut-être même d'Europe, je ne sais pas. Mais justement, ils ont peut-être, eux, c'est, on va un peu comme, si on compare avec le rugby à 15, les All Blacks, où eux, même s'ils ont 50 à 70 points d'avance, ils vont continuer à essayer de marquer plus de points.
Oui, après ça, c'est une culture et c'est une façon de jouer. Nous, je pense que au niveau mental, on n'est pas prêt à jouer un match du début jusqu'à la fin en essayant de marquer le plus de points. Et donc, c'est pour ça qu'à des moments, on a des passages à vide. Et après, ça peut arriver d'avoir des passages à vide dans toutes les équipes en ont, mais ce qui est important, c'est de savoir les gérer. Ces moments difficiles.
Et donc, comme toi, tu as joué au niveau au niveau professionnel, qu'est-ce qui te manque, on va dire, par rapport à ce milieu-là, au niveau de Carpentras?
Personnellement?
Oui, personnellement. Est-ce que tu t'y retrouves ou est-ce que, justement, tu dis « Ah, il me manque quand même quelque chose ».
Bah après, après, c'est sûr que quand on est joueur de rugby, on est compétiteur, on veut toujours jouer le mieux possible, être dans la meilleure équipe. Donc, c'est peut-être le haut niveau en lui-même qui manque. Et d'être, par exemple, quand j'étais sur Perpignan, on était dans les premiers rôles, donc c'est plus ça qui manque actuellement. Mais après, je suis quand même bien dans le club de Carpentras, j'ai de bons collègues, j'ai des amis d'enfance. Donc d'un côté, j'ai perdu un peu ce haut niveau, mais après, j'ai trouvé d'autres qualités qui est important aussi pour le rugby.
Parce que toi, ça fait 2 ans que tu es arrivé. C'est vrai qu'en 2 ans, tu as quand même vu une évolution. C'est-à-dire que ton arrivée a été quand même très positive pour le club. Je sais pas, Alexandre, t'en penses quoi, toi?
Ah bah oui, moi je pense que oui. De toute façon, oui.
Non, mais on te protège, hein. Tu peux dire tout sur Vincent.
Non, mais moi, c'est pas contre ça. Moi, juste, non, mais moi, je suis très content qu'il soit revenu. C'est quelqu'un qui est très connu dans le club.
Indispensable, dis-le.
Qui est connu depuis longtemps au club, donc...
C'est... Ouais, mais être connu... Ça fait pas
c'est connu et c'est important. Non, mais c'est important. C'est un personnage important du Carpentras 13. Donc c'est bien qu'il soit revenu.
Parce que avant t'étais à Carpentras et donc t'es parti. Comment t'as organisé justement ta carrière sportive jusqu'à maintenant?
Alors j'ai fait ma formation à Carpentras, donc depuis tout petit, depuis l'âge de 5 ans. J'ai monté les différents niveaux. Après, à partir de 18 ans, j'ai intégré l'équipe première
de Carpentras.
De Carpentras, oui. J'ai effectué 4 saisons au sein de l'équipe première. Après, je suis parti donc 2 ans à Perpignan.
Mais tu as été remarqué ou c'est une décision personnelle?
Les deux. Donc, d'abord, il y a un contact qui se fait auprès du club
qui veut te recevoir.
Qui voulait m'engager. Et après, c'est une décision aussi personnelle, quoi. Parce que c'est un choix de quitter l'environnement familial et de partir
à l'aventure.
Oui, à l'aventure. Après, il y a aussi j'avais mes études qu'il fallait que je prenne en compte. J'avais mon aspect personnel. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ça à prendre en compte. Après, c'était une aventure à vivre, sportive et humaine.
Et tu es resté combien de temps là-bas?
Je suis resté 2 ans.
2 ans.
Je suis resté 2 ans et après, je suis revenu à Avignon. Donc, pareil, équipe première. Et l'année dernière, je suis revenu sur Carpentras.
Ah oui, donc t'as bien bourlingué. Et justement, tous ces clubs, ça t'a amené beaucoup d'expérience, justement?
Oui, ça amène l'expérience. Mais ce qui est bien, c'est de voir autre chose, ce qui se passe ailleurs. Et ça permet aussi de s'adapter.
Parce que là, depuis 2 ans, c'est vrai que l'an dernier, Carpentras n'était pas très très bien placé. Cette année, vous ne défendez pas si mal que ça, quand même. Hein, parce que vous en gagnez des matchs. Après, souvent, on en parle beaucoup avec Alexandre ici dans l'émission, les défaites, c'est souvent en dernière minute de jeu pratiquement. Hein, t'en penses
quoi? Oui, à chaque fois. C'est sur pas mal de matchs, oui, notamment ce week-end contre Villegayen, ça a été un match où c'était très serré. Carpentras revenait à chaque fois grâce à des pénalités, revenait mené d'un point, 2 points. Et c'est vrai qu'après, dans les 10 dernières minutes, ça craque. Et le problème du rugby à 13, c'est qu'on marque, donc on marque beaucoup de points très vite, mais on en prend très vite aussi. Donc, et là, ça, c'est dommage, mais c'est un peu mieux quand même que l'année dernière.
Après, pour rejoindre ce que vous dites, à l'heure actuelle, on a fait 5 défaites. Et sur les 5 défaites, il y en a 4 qu'on perd de moins de 12 points.
À chaque fois, elles sont serrées.
Donc, il ne manque pas grand-chose. je pense un déclic. Un déclic, une victoire à l'extérieur ou une victoire contre un club qui joue les premiers rôles.
Mais justement, on va faire une petite pause et on va voir si on peut arriver à décliquer tout ça. À tout de suite.
Trop de fierté pour avouer. Les sentiments, il faut pas jouer. Les sentiments, ils te font douter. Arrête de dire qu'ils te dégoûtent. Ma copine, raisonne-toi, arrête tes sottises. Tes sottises pour parler d'amour, pas besoin de sous-titres. Je te vois, tu soupires, laisse-le partir. Je suis là au pire. Bah ouais, quand cœur est brisé, toutes les femmes te disent c'est l'homme le fautif. Hein. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément. French kiss. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. French kiss. Sûr de toi, tu sais pas ce que tu veux, toi. Tu le veux sous le même toit, tu la veux sous le même toit. En amour suffit pas d'y croire, tu vis dans le doute et l'espoir. Quand t'es seul face à ton miroir, tu te refais l'histoire. Mais tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Ah, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément. Un peu beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. French kiss. Je l'aime à la folie. French kiss. Je l'aime un peu beaucoup. French kiss. Je l'aime passionnément. French kiss. Pas du tout. French kiss.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Et là, on peut dire bravo Bruno, bravo. On a réussi à retrouver notre générique.
Hein. Premier jingle de la soirée.
Ouais. Non mais merci. Et puis franchement, une petite parenthèse, Bruno, il a été très très bien ce soir. Je le félicite parce que c'était sa première tout
il
seul.
Il s'est débattu.
Tout seul.
Hein, donc bravo Bruno et...
Merci.
Pour ça. C'est très bien. T'as fait
donc
des,
on peut dire au président qu'il peut revenir la semaine prochaine, il n'y a pas de problème.
Voilà. Et il n'oubliera pas nos jingles cette fois-ci.
C'est ça.
Non, non, je m'arrangerai pour tout faire parfaitement la prochaine fois.
Très bien. Alors, on revient justement, on a la chance d'avoir Vincent Cantat, le capitaine de l'équipe première du Racing Club de Carpentras 13. Et on parlait justement donc, un petit peu des baisses de régime. Bon, après, ça n'empêche pas que Carpentras est quand même dans le milieu du tableau. Au niveau de l'entraîneur, lui, il en pense quoi justement ? Est-ce que toi, avec l'entraîneur, vous avez réussi à... Donc, tu m'as dit tout à l'heure, vous avez vraiment pris conscience de ces baisses de régime. Est-ce que vous avez essayé de trouver des petites stratégies justement pour pallier à ça ?
Alors, on essaye. Alors, c'est vrai qu'il y a deux... Il y a deux matchs, on s'est rendu compte... on a essayé de programmer un peu les remplacements pour essayer de garder une constante sur notre intensité au long du match. je pense que c'est sur la bonne voie. Sur... Après, avoir, on essaie toujours de progresser. Donc après, je pense qu'en échangeant, en essayant de trouver des solutions, on y arrivera.
Parce que vous avez droit à combien de changements, Alexandre, au rugby à 13? C'est illimité
à...
ou
non,
parce...
on a le droit à 12 changements.
Combien?
Nous, 12 changements.
12?
Oui.
Ah, tu peux pratiquement renouveler l'équipe, en fait?
Oui. Mais par exemple, si un titulaire sort au bout de 20 minutes, il peut re-rentrer. C'est pas définitif, un changement.
Mais c'est considéré comme un changement?
Oui.
Donc, s'il sort une fois, il est remplacé et re-rentre, ça fait 2 changements?
Oui.
Ah oui, donc c'est bon.
Ça permet aussi, justement, il a raison aussi, aux puissants, enfin aux dominants, voilà, de l'équipe, de se reposer.
Ah, c'est le dominant, Vincent.
Ben oui. Je l'ai vu jouer, oui. Pour moi, c'est un leitmotiv dans cette équipe. Donc, de sortir, ça le repose, et de revenir plus puissant à la suite, quoi, pour finir le match comme il se doit. Sinon, je pense qu'aussi, stratégiquement, ils ont raison de sortir comme ça.
Après, les remplacements se font surtout auprès des postes de piliers.
Ils prennent des coups.
Et après, souvent, c'est des joueurs qui jouent au milieu du terrain, c'est principalement eux qui font le plus de plaquage. Donc forcément, qui dit plus de plaquage dit beaucoup plus de fatigue. Donc pour ne pas baisser cette intensité, c'est souvent ces postes de piliers qui sont changés le plus tôt dans la partie.
Alors, je sais qu'au rugby à 15, bon, c'est vrai qu'ils ont peut-être plus de moyens. Ils ont des sortes de petits pas GPS.
C'est des
GPS. Qui permettent de calculer justement l'effort réalisé par le joueur, le nombre de kilomètres, mètres qu'il fait, l'intensité qu'il met. Au rugby à 13, ça n'existe pas, ça?
Si, ça existe, mais au haut niveau, nous, on ne peut pas se permettre d'avoir des GPS dans le dos.
Hein.
Même si on en avait, après, il faudrait une personne spécifique à l'étude du GPS.
Du GPS.
Donc, c'est un travail énorme.
Avignon, où tu as joué, ils l'ont, ça?
Non, c'est que les équipes professionnelles.
Ouais.
Mais ça doit avoir un coût, quand même.
Ah bah oui, forcément.
Ben, comme je vous dis, c'est un coût à l'achat. Et après aussi, il faut étudier
il faut savoir.
Les données GPS. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, il faut
long.
Presque un emploi, je pense, dédié qu'à ça.
Ah oui, donc effectivement, oui. Et sinon, au niveau de... Parce que bon, il y a l'équipe première, il y a le club, le staff, d'une manière générale. Est-ce que vous, au niveau des joueurs, une question un peu sensible, mais est-ce qu'au niveau des joueurs, vous vous sentez soutenu justement par le staff, par le... Parce que c'est vrai que souvent, l'équipe première, c'est la vitrine d'un club, mais c'est pas le club. Le club, c'est l'école de rugby, c'est tout ça. Donc, est-ce que vous êtes quand même une priorité pour le staff? Moi, j'appelle le staff, c'est-à-dire le bureau.
Oui, je pense que, comme vous avez dit, l'équipe première, c'est quand même la vitrine d'un club. C'est ce qui va faire la réussite, la renommée du club. Enfin, en partie. Oui, on se sent soutenu. Le président est présent tout au long de la saison. Les entraîneurs sont compétents et nous soutiennent autant bien dans les bons moments que les mauvais moments.
Donc l'entraîneur, c'est Jean-François Marin,
oui.
Alias Jeff.
C'est ça. Et l'entraîneur adjoint, c'est Michel Canovas.
Et au niveau des entraînements, justement, comment vous les organisez dans la semaine?
Alors on s'entraîne deux fois collectivement, le mardi et le jeudi soir. Et après, on a un partenariat avec une salle de sport. Et là, c'est plus c'est de l'entraînement individuel. À prendre sur notre temps personnel. Et alors après, sur ça, on essaie d'y aller par groupe pour avoir une meilleure dynamique d'entraînement.
Et au niveau de terrain même, c'est combien de fois par semaine à peu près?
Deux fois, le mardi, jeudi. On s'entraîne à peu près une heure et demie.
Une heure et demie.
Et au niveau match le week-end.
Et au niveau justement des matchs, c'est pratiquement tous les week-ends?
Là, oui. On enchaîne les matchs, je crois, jusqu'à mi-mars. Mais en général, si ce n'est pas tous les week-ends, c'est tous les 15 jours.
Tous les 15 jours?
Enfin, en principe, c'est tous les week-ends. Sinon,
donc là, en l'occurrence, hier, donc, il y avait un match. C'était contre, Alexandre?
Ville-Gaillenc.
Ville-Gaillenc, ils sont classés?
Oui, c'était juste devant Carpentras. Ils étaient
6e. Le prochain match, c'est contre?
Alors, le prochain match, on a un match de Coupe de France. Dimanche d'ailleurs à Carpentras, on reçoit l'équipe de Saint-Gaudens, qui est une équipe promue en première division.
Ça va être un gros match alors.
Ça va être un test pour nous. Comme l'année dernière, on avait reçu l'équipe du 13 catalan, qui est quand même un niveau au-dessus.
Ouais.
Mais c'est des matchs intéressants pour notre équipe. Ça permet de progresser et de voir la différence de niveau entre la seconde division et la première.
Parce que Saint-Gaudens, ils sont au même niveau que le 13 catalan ou...
Oui, L'année dernière, c'est dans notre en seconde division, donc avec nous. Et on a perdu en phase finale, un quart de finale chez eux, de championnat de France. Et ils sont montés, du coup, l'année dernière.
Donc, vous les connaissez bien?
Oui.
Et justement, par rapport à Saint-Gaudens, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu monter?
Ça, après, je ne connais pas les...
Non, mais par rapport, on va dire, est-ce que c'était surtout au niveau du jeu? Parce que quand vous avez joué l'an dernier contre eux, est-ce qu'il y avait vraiment une différence? C'est-à-dire, quand vous avez joué contre eux, vous avez pris, entre guillemets, la raclée. Et là, effectivement, bah, oui, c'est une équipe qui a plutôt le niveau de la première, division que...
Non, en fin de saison, on perd, ben, comme on a soufflé le problème, à 10 minutes, un quart d'heure de la fin, on perd. Après, c'est vrai que ils avaient... Niveau qualité, par joueur, c'était quand même meilleur que nous dans, si on compare l'équipe en général.
Oui.
Il y avait un meilleur niveau d'équipe, on va dire.
Et est-ce que vous étudiez l'équipe que vous allez recevoir?
Oui, on essaye de...
Les joueurs, quoi. Alors,
de pointer leurs points forts et leurs points faibles pour essayer de s'adapter et jouer en fonction de ça.
Et ça marche?
Quand on applique les consignes, oui, ça marche. Mais après, c'est vrai que... Bon, après, l'équipe, des fois, s'adapte en fonction de notre jeu. Mais en général, si on écoute les consignes, on a plus de chances d'avancer et de marquer des essais.
Donc là, dimanche prochain, Saint-Gaudens, c'est en championnat de France.
En Coupe
de France. C'est les phases qualificatives, on en est à quel niveau?
8e de finale de Coupe de France.
8e de finale,
ouais.
Et donc, si vous gagnez, ça vous permettra de rencontrer... Donc là, en fait, vous rencontrez pratiquement que des équipes de première division ou il y a encore des équipes en élite 2?
Alors, de mémoire, il me semble qu'il y a 4 équipes de seconde division.
Donc, vous êtes plus nombreux. Vous êtes plus... oui, il y a plus beaucoup de monde, en fait. Hein.
Non.
Donc, c'est que vous avez quand même un très, très bon niveau. Ben parce ouais. que si les autres, derrière, ils se sont fait laminer...
Après, ben justement, le match de coupe, c'était contre Vigayen qu'on a gagné juste avant les fêtes. Ouais. Donc,
vous étiez en mesure de gagner dimanche dernier.
Oui, non, c'est sûr.
Après, sur un match...
Alexandre, t'avais vu tous les deux matchs ou pas, toi? Vigayen avant les vacances et puis celui-ci.
Tous les matchs qu'il y avait à domicile, je les ai vus. Donc,
Et justement, quelle était la différence entre ces deux matchs? Qu'est-ce qu'il y a...
Plein de choses. Déjà, moins de fautes. Ou chaque fois, sur certains matchs, défense sent mieux, par exemple. Oui, sur certains matchs, on va faire moins de fautes, parce qu'on est beaucoup plus confiant, on est beaucoup plus concentré tout au long du match. Il y a un peu moins de relâchement, même s'il y en a, c'est normal dans un match de rugby. Mais après, oui, c'est vrai qu'il faut de la concentration. Beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas trop réfléchir au rugby, au contraire. C'est dans la fatigue où il faut rester concentré, il faut continuer à prendre des ballons, continuer à jouer, même si c'est très dur.
Faut être là, quoi, sur
c'est
le
ça.
Terrain.
Faut jouer de la première à la dernière minute. C'est facile de dire ça, mais c'est très difficile de le faire.
Et justement, Vincent, tes joueurs, eux, ils abordent un match de Coupe de France différemment du championnat ou en se disant, on n'a pas le droit à l'erreur et on va se donner à fond? Ou non, ils l'abordent de la même manière?
Non, je pense que au niveau de la motivation, elle sera quand même assez élevée parce que, comme je vous ai dit, c'est un club de première division. Ils nous ont battu l'année dernière en quart de finale, donc il y aura si on peut appeler ça une petite revanche. Et c'est toujours intéressant quand on est sportif de se comparer à un niveau un peu meilleur pour se situer.
Donc on verra ça dimanche. Donc dimanche, c'est à quelle heure le match? 15h?
15h, je pense.
15h, ouais. Comme...
Et c'est à Carpentras?
Oui.
Donc j'invite tous les auditeurs à venir soutenir Carpentras. Et si vous gagnez, donc ça sera les quarts de finale?
C'est ça.
Bon, pour l'instant, on sait pas trop parce que tous les huitièmes de finale vont se jouer ce week-end.
Oui, après il y a un tirage au sort qui est fait.
Mais les grosses équipes sont toujours en lice.
Ah oui.
Avignon, toujours en lice. Avignon, le 13 catalan.
Tout le top 5 de la première division sont en lice.
Et sinon, après, au niveau du championnat, la prochaine équipe que vous allez rencontrer, c'est qui alors?
Et on va à Villefranche, à l'extérieur, chez le leader du championnat de seconde division.
Ah, donc.
Ça peut être un déclic.
Admettons, j'aimerais faire un résultat positif à l'extérieur.
Au moins faire une belle prestation.
Oui.
Faire une prestation comme vous avez fait déjà hier. Enfin, même si vous avez perdu en fin de match, vous avez quand même donné une belle prestation avec du jeu et sur une grande majorité du match, peu de fautes, même s'il y en a eu, mais il y en a eu peu à part en fin de match.
T'as vu un peu, c'est Alexandre, l'expert justement, qui parle.
Je suis pas expert du tout, moi.
Mais t'as vu, t'étais un peu intimidée quand même devant Vincent. Hein, Valérie, t'en penses quoi? Hein, c'est vrai.
C'est tout à fait vrai.
Tu vises une place en équipe première?
Oui, il y a le temps encore.
Il y a le temps.
Ah, j'ai le temps. Hein.
Voilà, donc l'émission est en train de se terminer, on l'entend par le générique. En tout cas, merci Vincent d'avoir accepté, donc Vincent Contal, le capitaine de l'équipe, d'avoir accepté notre invitation. Bon, c'est vrai que t'étais un peu en freelance, hein, t'étais tout seul. Mais en tout cas, on a appris beaucoup sur l'équipe première. Et merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. On va dire un gros mot pour dimanche prochain, et même pour la suite du championnat, on ne le dira pas bien sûr à l'antenne. Mais sinon, bah, écoute, en tout cas... je souhaite bonne chance à toute l'équipe hein, de notre part, de la part de RTVFM. Et puis, on aura l'occasion de se revoir.
Mais volontiers, je vous remercie pour l'invitation. En espérant que j'ai bien fait la pub de notre sport.
Bon, en tout cas, oui.
Oui, hein, oui, oui c'est que, vrai que. Ouais, c'est vrai.
Tu reviens quand tu veux avec Jean-Pierre. Et puis, comme ça, on pourra bien parler justement du rugby à 13, que tu valorises très très bien le rugby à 13. Et c'est, ça, c'est
et même sur le terrain, il le valorise. Ouais. Donc, j'invite, c'est vrai, nos auditeurs à aller voir un match de rugby à 13. C'est magnifique.
C'est du vrai rugby.
Ouais. C'est non, vrai c'est, rugby. C'est un sport plaisant à voir et agréable.
Très bien. Alors, merci beaucoup, Vincent.
Je vous remercie.
Merci Alexandre, merci Valérie, merci Bruno pour ta première. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. On va parler du sport en général, hein, Valérie.
Avec le comité olympique.
Voilà, parce que justement il va y avoir des changements et vous saurez tout ça la semaine prochaine. Allez, bonne semaine sportive à tous.
Au revoir.